Jérôme Garcia, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Jérôme Garcia, en quelques mots, on va vous présenter rapidement aux auditeurs et auditrices. Vous avez 56 ans.
Bientôt.
Vous êtes aide-soignant, vous êtes brancardier exactement à l'hôpital d'Alès, militant syndical à la CGT.
C'est ça.
Et amateur de bonnes chansons françaises de caractère, car vous êtes bénévole au festival Barjac Manchante. C'est, je crois, la deuxième fois que vous vous présentez aux élections municipales. En 2020, vous aviez réalisé 2%, 2,04%. Est-ce que vous pensez faire beaucoup mieux cette année ?
Moi, je suis avant tout un militant. Je veux dire même un militant ouvrier. Je me bats pour défendre le camp des travailleurs, pour faire entendre la cause du monde du travail. Si je me présente aux élections, c'est d'abord pour défendre mes idées.
Oui.
Et j'espère que nombre de travailleurs, et le plus nombreux possible, j'espère, porteront leur voix sur mon bulletin de vote pour qu'on fasse le meilleur score possible. Voilà.
Jérôme Garcia, vos idées, ce sont des idées de gauche. Mais alors pourquoi est-ce que Lutte ouvrière fait bande à part ? Vous ne rejoignez pas, justement, le Parti communiste ou les Insoumis et les LFI ?
Alors, je ne sais pas si mes idées sont des idées de gauche. Moi, je sais que mes idées, c'est des idées communistes, révolutionnaires. Je suis internationaliste, je suis pour l'abolition des frontières. À partir de là, je sais que le ministère de l'Intérieur nous classe à l'extrême gauche. C'est son choix. Nous,
on préfère. Et LFI vient d'être classé à l'extrême gauche également.
Tout à fait, oui. Voilà. Nous, l'idée qu'on veut défendre primordialement, c'est que c'est quand même les travailleurs qui font tourner toute la société. Hein, c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui transportent, c'est eux qui distribuent. Sans eux, la société ne pourrait pas fonctionner. Et on pense qu'à ce titre-là, il leur revient le droit de la diriger, cette société. Et plutôt qu'elle tourne au profit des propriétaires, de la grande bourgeoisie, des banquiers, des financiers, qui, eux, font tourner la société pour faire du profit individuel et pas du tout pour le bien collectif.
Corentin.
Et là, on comprend ce que vous voulez dire d'un point de vue national. C'est une position qu'on connaît depuis l'existence de Lutte ouvrière. Mais comment est-ce que ça se décline au niveau local, sur Alès ? Comment ça se transpose ?
Eh bien, il n'y a pas de raison que même dans le cadre d'élections municipales, on ne fasse pas l'effort militant, parce que pour nous, c'est quand même un très gros effort militant, hein, et pas que sur Alès. Hein, on présente des candidats dans 240 communes en France. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas cet effort au niveau local pour continuer à défendre ces idées-là, parce que c'est de l'ordre de la liberté d'expression.
Oui. Hein.
Quand je dis qu'on s'est passionné de gauche, c'est parce que je pense que nous, on est les seuls à défendre le camp des travailleurs, défendre le monde du travail. Nous, sur notre liste, il n'y a pas de notables, il n'y a pas de politiciens ou d'apprentis politiciens. Nous, il n'y a que des gens qui travaillent, ou des retraités, ou des chômeurs.
Mais je ne comprends pas votre phrase. Je ne sais pas si nous sommes de gauche.
Bon, je ne comprends pas forcément ce que j'ai voulu dire par là. On se réclame pas. Comment dire on n'a pas envie de se réclamer
vous
de la gauche quand on voit
révolutionnaire,
oui, là, c'est ça.
D'obédience, on va dire d'obédience, le mot est improbe, mais donc tendance trotskiste.
Oui.
Donc. Et effectivement, Trotsky, Léon Trotsky, bon, était, si on en croit l'histoire, quand même justement plutôt à gauche que Staline, par exemple, qui l'a fait assassiner.
Oui, on peut dire ça comme ça. Le problème, c'est que c'est un peu quand on veut classer
la révolution permanente, c'est bien un
concept. Quand on veut classer les idées politiques sur une ligne allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, bon, peut-être qu'on peut être classé à l'extrême gauche. Là, ça me dérange pas. Mais fondamentalement,
les étiquettes vous embêtent.
C'est pas les étiquettes qui m'embêtent, c'est. Quand on voit la politique qu'a menée la gauche au gouvernement, hein, quand on pense à Mitterrand qui se fait élire en disant aux gens qu'il allait changer leur vie et qui, un an après, c'est le tournant de la rigueur, c'est le blocage des salaires. Quand on voit le gouvernement Jospin qui a privatisé plus que tous les autres gouvernements de droite qu'il avait précédé avant. Quand on voit le président Hollande, c'est lui quand même qui nous a sorti Macron de son chapeau, voilà, nous on n'a pas envie de se retrouver accolés avec ces gens-là.
Corentin.
Pour revenir sur ça, vous parlez dans un tract, il faut changer cette société du tout au tout. Justement, qu'est-ce qui doit changer? Et selon tout le passé de la gauche en France, qu'est-ce qui doit changer? Comment doit évoluer la société selon vous?
Alors, je vous l'ai dit, nous, on est communistes révolutionnaires. Nous, ce qu'on veut, c'est enlever son pouvoir de nuisance à la grande bourgeoisie. On veut que les grandes industries, les grandes banques soient gérées collectivement par le monde du travail. Et dans la mesure où il fait tourner toute la société, il en a entièrement les moyens, collectivement et bien entendu.
Alors, Jérôme Garcia, comment décliner ces idées, ces grandes idées fortes au niveau local, dans le cadre d'une élection municipale? Parce que c'est bien de ça. Aujourd'hui, vous êtes ici dans ce studio pour parler d'élections municipales. Comment est-ce que cela peut être décliné pour Hello?
Concrètement, nous, on pense que les travailleurs doivent se mêler de tout. Hein, je sais qu'aujourd'hui, ils sont résignés, qu'ils ne se croient pas capables de... On les habitue tellement à toujours les commander qu'ils ne se croient pas capables de pouvoir diriger la société. Moi, je suis convaincu que collectivement, le monde du travail est capable de diriger la société à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une entreprise. C'est nous qui faisons tout fonctionner, c'est nous qui voyons ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on pourrait améliorer les choses. Et je pense que... Les travailleurs sont en mesure de diriger la société bien mieux que ça. Maintenant, puisque vous me parlez des élections municipales, moi...
Nous sommes ici pour cela.
Oui. Oui, je m'y présente. Si j'étais élu, je ne ferais pas la politique de la chaise vide.
Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que Jérôme Garcia, maire d'Alès, fait?
Alors, maire d'Alès, je ne crois pas. Maintenant, si je suis élu d'opposition, je ferai pas la politique de la chaise vide. Je serai les yeux et les oreilles des travailleurs dans ce conseil municipal. Et dans la mesure du possible, je serai également leur porte-voix. Je défendrai les causes, les luttes qui seront en cours sur la ville au sein du conseil municipal.
Et justement, à titre personnel ou de ce que vous en tirez de vos différentes rencontres, quelles sont les causes principales que vous comptez défendre? Est-ce qu'on est sur de la santé, de la sécurité, du pouvoir d'achat? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur à défendre au conseil municipal?
Toutes ces causes sont importantes. Hein. J'entends beaucoup les autres candidats parler de rénover le centre-ville, d'activer le centre-ville. Mais en réalité, le gros problème sur Alès, hein, c'est le poids du chômage. 30% de la population alésienne vit sous le seuil de pauvreté. Si vous n'augmentez pas les salaires, si vous ne donnez pas du travail à tout le monde, hein, on défend l'idée de partager le travail entre tous sans perte de salaire. Si vous n'améliorez pas donc les conditions de vie et le pouvoir d'achat des gens, le centre-ville de la ville va continuer à décliner.
Mais est-ce que cela, seul le maire en est capable? Seul le maire maîtrise justement le pouvoir d'achat?
Non, c'est le pouvoir d'achat, c'est ni même le gouvernement qui le maîtrise. Hein. Le seul levier qu'il peut avoir sur le pouvoir d'achat, le gouvernement, c'est le SMIG. Maintenant, le monde du travail, les travailleurs, par leur organisation, s'ils s'organisent, s'ils prennent confiance en eux, par leur lutte demain, ils peuvent arracher des augmentations de salaire. C'est ce qui s'est passé en 1936, après la grève générale, c'est ce qui s'est passé en mai 68 également.
Donc, Jérôme Garcia, on entend bien que vous pensez plus au niveau national, voire international, vous l'avez dit, vous êtes internationaliste, que penser au niveau local. Or, il semblerait quand même que précisément, ce sont les édiles locaux qui sont les édiles, les élus préférés des Français, parce qu'il y a une proximité. Est-ce que, justement, à défendre ces idées qui sont tout à fait respectables et belles, dans le fond, est-ce que vous répondez aux attentes, aux demandes des Alésiens, des Alésiennes? Jérôme Garcia.
Ce qui est vrai, c'est que nous, on ne se présente pas pour faire des promesses électorales. On ne dira jamais « votez pour nous, on va améliorer les choses, on va vous changer la vie ». Nous, on est convaincus que c'est collectivement, que c'est par les luttes que les travailleurs, les ouvriers pourront changer la société. en s'organisant à la base.
Avec Corentin, on se disait qu'il y avait un domaine que vous devez bien connaître, sur lequel vous avez sans doute des idées de par votre travail.
Forcément, on va penser à l'hôpital, notamment là où vous travaillez. Alès est souvent qualifié de désert médical. On sait à peu près le ratio actuel est de 1 médecin pour 2300 habitants sur le Grand Alès, qui est quand même assez compliqué. On estime environ 8000 Alésiens qui n'ont pas de médecin traitant et plus de 15 000 sur l'agglomération. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation, tout simplement ?
Alors, justement, cette situation, on peut... C'est une difficulté, parce que le problème, il est à la base, il est national. Hein. Ça fait depuis les années 70, il y avait le fameux numerus clausus qui limitait le nombre de formations de médecins, hein, jusque pour en arriver aujourd'hui à une pénurie de médecins qui est dramatique, qui se pose, quand on parle de déserts médicaux, ben oui, c'est pas qu'à la campagne des déserts médicaux, c'est même des petites villes comme Alès qui sont touchées, où on manque de médecins. Moi, je travaille à l'hôpital public, je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'hôpital public, sans l'apport de médecins d'origine étrangère, ben, il tournerait plus. La réalité, c'est ça. Et ça, c'est des choix politiques qui ont été pris à l'échelle nationale et pas à l'échelle locale.
Des élus ont lancé l'idée sur l'agglo d'Alès de faire venir des médecins cubains. Qu'en pensez-vous ?
Oui, mais c'est comment dire ? C'est le prolongement de cette politique où on fait venir des médecins d'autres pays pour combler les trous dans l'hôpital public français.
Mais là, c'est une idée internationaliste de faire venir des médecins de Cuba.
Je ne suis pas contre. Hein. Non, mais ça ne réglera pas le problème de fond. Parce qu'aujourd'hui, le numerus clausus a disparu, mais dans la mesure où les universités de médecine n'ont pas plus de moyens financiers, elles ne forment pas plus de médecins aujourd'hui qu'avant.
Ça reste le comité de défense d'hôpital qui a lancé cette initiative. Précise bien que ça reste une idée transitoire en attendant justement les effets du numerus clausus espérés en 2035. Mais est-ce que quand même ça peut suffire ? Il y a encore du travail du coup au niveau national sur la santé selon vous ?
Bien sûr qu'il y a du travail énorme. La santé, c'est quand même un domaine où on sent le plus, où il y a des inégalités sociales. Effectivement, quand on peut se faire soigner en secteur 2, c'est-à-dire non réglementé par la Sécu, quand on peut avoir accès à des cliniques privées, les riches, ils peuvent se soigner correctement en France. La majorité de la population, elle ne compte que sur la sécurité sociale et l'hôpital public, bien souvent.
Jérôme Garcia, vous êtes 6 candidats à la mairie d'Alès. Il n'y a pas une seule candidate. N'est-ce pas étonnant ? La parité,
oui et non.
Le combat pour l'égalité, pour la parité. Là, on arrive dans la semaine justement de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars. Ça vous questionne pas ?
Si, mais je pense qu'on vit quand même dans une société où le patriarcat encore de beau reste.
De beaux jours devant lui encore.
Je le combat d'ailleurs. Moi, j'ai pas honte de me dire féministe. Je défends la cause des femmes, je défends l'égalité entre les hommes et les femmes. Maintenant,
Comment justement vous la défendez ? Comment Hello la défend ?
Nous, on la défend parce qu'on se considère entre camarades, entre militants, d'égal à égal. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si notre porte-parole nationale, après Arlette Laguiller, c'est Nathalie Arthaud. Nous avons toujours tenu à donner autant de place à nos camarades féminines qu'à nos camarades masculins.
Mais c'est vous qui avez été choisi comme tête de liste sur Alès.
Eh bien, oui. Moi, je préférerais être entouré de plus de camarades. Peut-être que... Vous savez, on est une petite organisation. Les camarades d'Alès ont pensé que c'était moi qui étais le mieux placé pour représenter lutte ouvrière sur la ville.
Parce que vous êtes déjà une tête connue.
Parce que je suis déjà un peu connu, parce que ça fait 30 ans que je milite pour la cause ouvrière, oui.
Ça vient d'où, justement, cette fidélité à lutte ouvrière ? Racontez-nous comment vous avez choisi lutte ouvrière plutôt que, par exemple, la LCR, qui était l'ancêtre du NPA, la Ligue communiste révolutionnaire, ou le PC.
Parce que je suis tombé sur les militants de lutte ouvrière, que c'est eux qui m'ont formé, c'est eux qui m'ont fait lire, y compris pas que des bouquins politiques ou théoriques d'ailleurs, qui m'ont fait lire beaucoup de romans. À l'époque, j'étais lycéen. On venait de faire sortir d'un grand mouvement lycéen-étudiant contre le projet de loi de Vaquer. On avait fait démissionner un ministre, quand même. Ce qui montre le poids que peuvent avoir... Moi, ça a été une école pour moi. Hein, le poids que peuvent avoir des mobilisations sur les politiques, y compris les politiques nationales, sur des gens qui se disent droit dans leurs bottes, mais qui, au bout du compte, finissent par plier et même démissionner parfois. Pour moi, ça a été une école de la démocratie ouvrière, parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des assemblées générales. Tous les jours, on avait élu un comité de grève qui était chargé d'organiser la mobilisation, qu'on réalisait tous les jours, qui nous faisait des propositions, qui étaient votées par l'assemblée générale. Je pense que ça a été une sacrée école pour moi.
Et justement, enfin, vous êtes un des rares qui tient aussi longtemps. On est dans une société aujourd'hui un peu qui tend plus à se résigner qu'à se mobiliser. On le voit, il n'y a pas une détestation de la politique aujourd'hui, mais il y a une fatigue. Les gens ont tendance à de moins en moins croire à la politique, à la mobilisation. Comment est-ce qu'on arrive encore à fraterniser, à faire en sorte que les gens se mobilisent?
Alors bon, les gens, ils aiment pas la politique politicienne, parce que la politique politicienne, c'est la politique des bonimenteurs, hein, des gens qui font des promesses et qui, une fois élus, ne les tiennent pas. Moi, je suis convaincu que le système va forcément provoquer des explosions de colère, comme on l'a vu d'ailleurs dernièrement avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui a débordé tous les partis et toutes les organisations syndicales. Moi, je suis convaincu que les gens, il y a un moment où ils en auront marre de se résigner, ils en auront marre de baisser la tête et qu'ils auront envie de se battre pour changer leur vie, changer leur sort.
Ça, c'est votre espoir.
C'est mon espoir, oui.
Alors précisément, c'est le titre de la chanson que vous avez choisie aujourd'hui, puisque nous avons demandé à chacun des 6 candidats de choisir un titre, une musique qui les représente de certaines façons. Et je vous laisse présenter, Jérôme Garcia, la chanson que vous avez choisie. De qui est-elle et par qui est-elle chantée?
Oui, alors, bon, j'ai choisi cette chanson.
Parce que là, c'est le militant bénévole du festival Barjac Manchande qui va parler.
Oui, mais c'est aussi un peu le militant politique, parce que moi, je pense que dans cette période où on voit que c'est la marche à la guerre, qu'ils vont dépenser des milliards dans l'armement, dans des rafales, dans des canons César, aux dépens de l'hôpital public, aux dépens de l'éducation nationale, aux dépens des transports en commun, hein, la marche à la guerre qu'on va sûrement connaître demain, on est déjà en train de la payer en tant que travailleur aujourd'hui. Voilà. Et oui, j'ai choisi l'espoir parce que je pense que l'humanité mérite bien mieux que ça et qu'elle est capable de changer le monde. Donc c'est une chanson qui est... de Michel...
C'est pas le roman d'André Malraux.
Non, c'est pas le roman d'André Malraux. C'est une chanson qui est chantée par un ami à moi que je côtoie tous les ans au festival de Barjac, qui s'appelle Eric Frasillac. Enfin, les paroles sont pas de lui, elles sont de Michel Buller.
Michel Buller, chanteur suisse.
C'est ça, oui. Ça vous fait plaisir. Hein. Voilà, et ben, on peut l'écouter, je pense. Hein.
Très bien, avec plaisir.
Bien que je sois pas du genre chochotte, à m'effrayer comme un moineau, à peine y vente, à peine y flotte, du genre à faire mon numéro, d'inquiète, voyante, extra lucide, planté devant sa boule de cristal, je vois les ténèbres, le vide, aïe, tout s'écroule et tout va mal. J'avoue que par ces temps exaltants, ce début de millénaire embrumé, je serai, disons, pas franchement, d'un optimisme forcené. Bêtement vu les demains qui se préparent, et le pauvre monde comme il va. Oui, mais voilà que j'ai, c'est bizarre, comme c'est les tout au fond de moi. L'espoir. L'homme est souvent pire qu'une ordure, il l'a prouvé abondamment. Cette qualité-là, c'est sûr, défie les siècles, nargue les ans. Et c'est pas le progrès, pas la bourse, tout ce qu'illumine nous aujourd'hui, qui va venir freiner dans sa course l'universelle connerie. Allez demander rien que pour voir à Jenny, nous en Haïti. Comment va le vent de l'histoire? Allez faire un tour à Grozny, ouais, c'est l'horreur et le foutoir. La terre qui saigne un peu partout, mais j'ai beau le voir et le savoir, je garde envers et contre tout l'espoir. Et pas besoin d'aller à Perpète pour frissonner, monter les tours. Suffit de regarder sous nos fenêtres notre pays débordant d'amour, où les riches sur leur tas d'or se marrent et gouvernent en sous-main, où les pauvres travailleront plus fort et plus longtemps pour gagner moins, où le bonheur c'est chacun pour soi, quand y est parmi à bien plus tard. Franchement, pour en arriver là, faut être nul ou le vouloir, ou dans les salons du profit flotte une certaine odeur de merde, où tout est fait pour qu'on l'oublie, où tout est fait pour qu'on le perde. L'espoir. L'espoir d'abord c'est dire non à ceux devant qui l'on s'incline, c'est toujours relever le front quand les autres courbent l'échine. L'espoir c'est prendre la parole sans demander la permission, et c'est danser la carmagnole sous les balcons du roi Pognon. C'est cracher au nez des crétins, ceux qui prétendent inéluctables, le ventre tordu par la faim. C'est cogner du poing sur la table, c'est montrer son plus haut sinistre qui possède les continents, c'est dire leur fait à leur ministre, qu'il soit larbin ou président. L'espoir, c'est le respect toujours de tout ce qui palpite et vit. Ça vient de loin, des anciens jours de la mine et du pain rassis. L'espoir, c'est l'évidence belle que l'on est là mille et cent mille, sans peur aucune de vous rebelles, et que ça n'est pas inutile. L'espoir c'est plus fort que la mort, la fleur qui perce le goudron, le soleil qui se lèvera encore sur les fûts rouillés des canons. C'est cette flamme qui vacille, ce feu que je tiens dans ma main, fragile et fort comme ma vie, c'est tout ce qui me fait humain. L'espoir.
L'espoir, chanson d'Éric Frasiak, écrite par Michel Buller. Vous écoutez Radio Grille Ouverte et nous sommes effectivement dans les élections municipales en compagnie de Corentin Dimanche de la rédaction alésienne d'Objectif Gare, à qui je cède la parole de suite, Corentin.
Tout à fait, merci Yves. On en a parlé avant la musique, la fameuse journée du 8 mars des droits des femmes, il se passera un autre événement pour vous, entre guillemets, le 8 mars, c'est votre réunion publique à 14h. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réunion publique?
Ah ben nous, on y attend des Alésiens, des travailleurs qui viennent pour discuter avec nous de notre programme pour changer la société. Voilà, bon, on espère qu'il y aura du monde.
Changer la société, c'est changer la vie. Justement, c'était le slogan de François Mitterrand que vous évoquiez tout à l'heure. Slogan rimbaldien.
Ben oui, sauf que moi, je vais reprendre les paroles de l'international. Hein. Ni Dieu, ni César, ni tribun, producteur, sauvons-nous nous-mêmes.
Bon, après Michel Buller, l'international. Bon, on sent qu'effectivement, vous connaissez la chanson, hein, vous connaissez la musique, Jérôme Garcia. Et en matière culturelle, justement, comment vous voyez, parce que vous êtes en tant que justement bénévole dans ce festival Barjac Manchante, qui est un festival de chansons de caractère, populaire, exigeant, comment vous envisageriez justement à l'échelon local, à l'échelon de l'agglo d'Alès, une politique culturelle?
Ah, je pense que la culture, c'est quelque chose de fondamental, qui est profondément humain. Mais justement, je pense que la culture, ça commence déjà par savoir lire et écrire, comprendre des textes. Hein. Moi, pour discuter avec des collègues enseignants, notamment dans les milieux professionnels, c'est impressionnant le nombre d'élèves qui peuvent lire un texte sans comprendre des fois le sens. Hein, je pense que la culture, ça fait partie de l'éducation aussi. Mmh. Voilà.
Après, l'éducation permet d'accéder à la culture.
Et forcément, on pense voilà, la question de l'accès à la culture, soit en termes d'infrastructure ou d'éducation ou forcément financiers, qui sont des sujets chers à vous. Qu'est-ce qui peut être amélioré de ce point de vue-là?
Aujourd'hui, dans cette société marchande, hein, pour avoir accès à la culture, souvent, il faut de l'argent. Et c'est ce qui manque. Hein, voilà. Donc, que une municipalité développe des activités culturelles gratuites ou à peu cher pour l'ensemble de la population, dans les quartiers, y compris dans les quartiers les plus populaires, oui, bien sûr, ça serait des choses qui pourraient se faire.
Nous sommes ici installés dans un quartier populaire, les Prés-Saint-Jean.
Je connais bien ce quartier, je suis régulièrement sur le marché des Prés-Saint-Jean le dimanche matin, oui.
Pour tracter, pour présenter
pour tracter,
les idées de lutte ouvrière.
Pour discuter avec la population qui passe là, hein, avec les badauds, pour vendre mon journal. Voilà, puis j'ai été scolarisé à Jean Moulin, qui était un collège qui était en plein milieu du quartier à l'époque.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, les habitants de ces quartiers? Quels sont leurs soucis du quotidien?
Leurs soucis du quotidien, ben, c'est de finir à la fin du mois. Hein, leur souci du quotidien, c'est qu'ils ont une voiture et qu'elle déconne et qu'ils ont peur qu'elle tombe en panne, parce que si elle tombe en panne, ben, ils ne pourront plus aller travailler ou ils ne pourront plus chercher du travail, parce qu'on vit quand même dans une ville où sans voiture, on a du mal à vivre, hein, on a du mal à travailler, on a du mal à se déplacer.
L'insécurité, c'est un grand thème récurrent de ces élections un peu partout en France. On l'a vu, on l'a entendu tout récemment au débat auquel vous avez participé. Mais pour Lutte ouvrière, l'insécurité, la délinquance, le narcotrafic, je reprends les mots du tract que nous avons sous les yeux, ne peuvent pas être résolus à l'échelle d'une ville.
Non. Aujourd'hui, on a affaire à des réseaux, à des gangs. Au niveau de la ville, au niveau des quartiers, souvent des quartiers les plus populaires des villes, ça se traduit par de la délinquance, par des incivilités, par des violences, hein, par des petits groupes qui veulent devenir les maîtres du quartier en quelque sorte. Et effectivement, c'est très très dur à vivre pour les populations de ces quartiers-là. Mais le marché de la drogue aujourd'hui, c'est la deuxième source de capitaux au monde, derrière celui des armes d'ailleurs. Hein. Parce que cet argent de la drogue, il faut bien qu'il soit blanchi quelque part. Et en vérité, les gens qui tirent les ficelles de ces réseaux-là, ils vivent pas dans les quartiers populaires, ils vivent dans des îles paradisiaques. Leur argent est placé dans des paradis fiscaux. La réalité, c'est ça. Et c'est que pour lutter réellement contre ces réseaux de la drogue aujourd'hui, ben, faudrait lever les secrets bancaires. On verrait où va l'argent, à qui il profite.
Jérôme Garcia, pour vous, la violence qui s'exprime dans la rue, c'est la manifestation d'une violence sociétale?
Ah ben, c'est le système capitaliste qui est violent. La violence, on l'a subie au travail, hein. Les conditions de travail se dégradent. Moi, je vois sur l'hôpital d'Alès, ben, pour les contractuels, entre autres, pour les CDD, ben, il y a souvent, suite à un rapport, moyen ou mauvais d'un cadre un jour, ben, il y a des CDD qui sont pas reconduits. C'est très violent pour quelqu'un de perdre son travail. C'est très, très violent, quoi. De pas savoir comment on va vivre demain. Y compris, je vois qu'en ce moment, sur l'hôpital d'Alès, mais ça fait un petit bout de temps, ça monte petit à petit, c'est les conseils de discipline qui se multiplient. Parce que dans les conditions... Oui, à l'hôpital, oui. Parce que dans les conditions... Mais c'est pas propre à l'hôpital d'Alès. Hein. C'est propre à toutes les entreprises. On nous demande, aux salariés, on nous demande toujours de faire plus avec moins de moyens. Et puis il y a un moment où ça craque. Alors, des fois, c'est les travailleurs qui craquent, c'est ce qu'ils appellent des burn-out. Moi, je préfère dire épuisement professionnel. Et puis, parfois, oui, les gens, ils pètent les plombs.
Après, force est de constater aussi, pour ce qui est de l'hôpital d'Alès, c'est que ces derniers temps, en tout cas, les services se sont améliorés, ils sont en train de se développer. Après, c'est vrai que malheureusement, ce qui se passe en interne, c'est en fait, c'est vous qui payez les pots cassés de cette demande et cette réussite de performance.
Alors, réussite de performance, je ne sais pas trop comment le dire. Moi, je ne suis pas là pour... la situation de l'hôpital d'Alès, effectivement, l'activité, elle augmente en ce moment. L'activité, elle augmente. Mais le nombre de petits bras pour soutenir cette activité, lui, il reste stable. Donc ça veut dire que la charge de travail pour le personnel, soignant comme non-soignant d'ailleurs, pour l'entretien, pour les administratifs, ben, la charge de travail, elle augmente. Après,
donc il faudrait des embauches.
Bien sûr qu'il faudrait des embauches. Moi, je pense que il manque pas de travail à l'hôpital. Ce qui manque, c'est des moyens, hein. Parce que le paradoxe, c'est que avec le nouveau système de gestion de l'hôpital, qui est un système capitaliste en réalité, plus vous augmentez l'activité, plus le tarif auquel on rémunère votre activité, il baisse. Donc c'est pas parce que vous augmentez forcément l'activité que vous avez plus de moyens. C'est la tarification de l'activité qu'a mis en place Roselyne Bachelot, entre autres.
Jérôme Garcia, avec vous, c'est très intéressant, mais on parle plus de problèmes généraux que de problèmes, justement, qui relèvent d'une municipalité. Comment concilier, justement, ce que vous nous dites, ce que vous dites sur le terrain, avec les questions, encore une fois, j'y reviens, des électeurs et électrices alésiens pour l'élection d'un maire et de conseillers municipaux?
Bah, je vais vous dire la vérité, c'est que les problèmes de la population alésienne en général, des classes populaires, ils ne relèvent pas de décisions qui sont prises au niveau de la municipalité, ils relèvent de décisions...
Il y a la vie quotidienne, il y a toute la vie quotidienne. Tout à l'heure, vous avez évoqué brièvement les commerces du centre-ville, il y a la question de la délinquance, on a, voilà, ici, dans les quartiers, il y a le problème, justement, des structures culturelles, que ce soit les cinémas, le théâtre, il y a un ensemble, en fait, tout ce qui constitue une ville, la mobilité. Tout ce qui fait vie dans une ville.
Du point de vue du pouvoir d'achat, il y a même la taxe foncière sur laquelle un maire peut avoir un impact.
Tout à fait.
Le maire peut avoir un impact sur la taxe foncière, mais encore faut-il être propriétaire. Hein. Voilà, la majorité des Alésiens ne sont pas propriétaires.
Mais le quotidien des Alésiens.
Le quotidien des Alésiens, c'est... C'est aussi ça, c'est aussi le poids de cette société où les revenus ne sont pas suffisants pour pouvoir vivre dignement, bien souvent. Ça dépend de la lutte des classes, du rapport de force entre le monde du travail et le capital. Le quotidien des Alésiens, j'ai perdu le fil de mes pensées, là, je m'excuse.
Mais, pas de problème, Jérôme Garcia. Parce que là, on vous titille un peu sur la question, justement, comment un maire, lutte ouvrière, répondrait aux demandes des citoyens de la ville. Bon, vous ne voulez pas être maire, vous ne le serez pas. Nous en sommes conscients, hein, vous-même, effectivement. Mais on partait sur une vision idéale.
À quoi ressemblerait la laisse idéale, en fait, au final, pour vous?
Ouais.
Moi, je pense qu'il faudrait que la population se mobilise quartier par quartier, dans tous les quartiers, pour améliorer son sort, pour revendiquer. La violence, par exemple, à l'époque, quand il n'y avait pas le chômage, quand il y avait encore des emplois sur Alès, elle n'était pas développée comme elle est développée aujourd'hui par rapport au chômage, à la misère sociale, au fait que les gens n'ont pas de perspective d'avenir en vérité aujourd'hui. Les jeunes, ils n'ont pas de perspective d'avenir. Souvent, ils partent chercher du travail ailleurs, d'ailleurs, sur Alès, hein. La population de la ville, elle est quand même relativement vieillissante. Quant aux travailleurs de mon âge, de ma génération, quand ils perdent leur boulot, c'est plus possible de retrouver du travail. Eux non plus, ils n'ont pas de perspective. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson « L'espoir », d'ailleurs, parce que c'est le seul espoir, ça sera dans les luttes collectives du monde du travail, des travailleurs, et pas qu'à l'échelle de la ville d'Alès, à l'échelle de la France, à l'échelle du monde.
Ça pourrait être une bonne conclusion pour cette émission, Jérôme Garcia.
Ah ben, si vous voulez, on peut conclure là.